car qu'elle a bu, mais n'aurait certainement pas bu si elle avait eu connaissance du prix. Ils ne peuvent digérer la perfidie avec laquelle Alexandre a surpris leur bonne foi, en les incitant à commander un vin qui, comme par hasard, ne figurait pas à la carte dans le seul but de les dépouiller. Et vers midi, ils tombent tous d'accord sur le fait qu'ils méritent une leçon. À ce moment-là, Chérine, qui a renoncé à les détourner de leur obsession, s'est mise à l'écart et lit dans une chaise longue au bord de la piscine. Alban lui annonce qu'il a réservé une table pour le lendemain soir et lui explique leur projet. Ils vont y retourner. Ils achèteront du vin au supermarché, le dissimuleront dans un sac à dos et le boiront au restaurant. Ils se serviront en douce sous le nez de ce petit salaud d'Alexandre, et tant mieux s'il s'en rend compte. Elle essaye de le dissuader. Elle se met en colère. Elle crie que c'est le plan le plus stupide et le plus vain dont elle ait jamais eu connaissance, mais il ne l'écoute pas. Il trouve ça drôle. Il s'en réjouit d'avance, et maintenant, face à l'adjudant-chef Séverine Bogossian, alors qu'elle a cessé de pleurer, elle se demande si Alban n'était pas alors victime de cet aveuglement commun à tous ceux qui s'efforcent sans le savoir de courir avec une obstination sans remède au devant de leur destin, et elle se rappelle une histoire que lui racontait son grand-père. « Tu fuis la mort vers Samarcande, mais c'est à Samarcande que la mort t'attend, car c'est là qu'elle a depuis toujours rendez-vous avec toi, à Samarcande. « Faites ce que vous voulez, » dit-elle à Alban. « Moi, je ne viens pas avec vous. Je ne participe pas à ça. C'est pour ça que vous ne les avez pas accompagnés? Parce que vous n'étiez pas d'accord avec leur projet?
Oui.
Je n'étais pas d'accord. En vérité, tout ça me faisait honte. J'aurais dû insister. Elle les attend au Bamboléo. Elle écoute la musique en buvant des cocktails au comptoir et elle discute avec la femme qui tient le bar. Elle ne pense plus à eux. Ils la rejoignent quand même un peu avant minuit. Ils sont tous excités. Ils racontent qu'ils ont quand même commandé une demi-bouteille de vin, le moins cher de la carte, et quand elle a été terminée, au bout d'un moment, une serveuse a remarqué qu'ils continuaient miraculeusement à boire, comme aux noces de Cana, et que leur verre n'était jamais vide. Elle a dû aller en parler à Alexandre parce qu'il est venu à plusieurs reprises sur la terrasse leur jeter des coups d'œil furtifs. Il avait l'air perdu, d'autant qu'Alban ne cessait de lui adresser de grands sourires qui le déstabilisaient complètement, si bien qu'il a fini par se terrer dans son fauteuil et n'a plus remis les pieds sur la terrasse jusqu'à ce qu'il quitte la table et qu'Alban prenne bien soin de le saluer avant de partir, sans oublier de le remercier pour le délicieux repas en se délectant de sa mine penaude. Bientôt, ils rentreront à Paris. Chérine sait, dès ce moment, avec une totale certitude, qu'elle quittera Alban le jour même de leur retour. Elle sait encore qu'elle ne le laissera pas la toucher d'ici là. Elle ne se donnera pas la peine de lui expliquer ce qu'il ne peut de toute façon pas comprendre. Elle ne souhaite pas se montrer cruelle envers lui, elle veut juste s'éloigner, ne plus le voir, ni lui ni ses amis, avec leurs orifices buccaux crispés dans un affreux sourire satisfait, tous les trois certains de leur bon droit, incapables de soupçonner la bassesse de leur minable projet de vengeance tant ils se sont convaincus de la pureté de leur mobile, alors qu'ils n'ont manifestement été animés que par la suffisance et la radinerie, surtout la radinerie d'ailleurs. Chérine s'en rend bien compte, le besoin pathologique de récupérer sous une forme ou une autre, à tout prix, le cher argent perdu, cet argent dont pourtant pas un d'entre eux ne manque, il n'a jamais manqué, et elle regarde Alban comme s'il avait toujours été un étranger qu'elle oubliera bientôt.
« Mais il est trop tard, ma chère petite, » murmure le très puissant Jean, « il est déjà trop tard, tu ne peux plus fuir, et tu n'oublieras pas. »
Et maintenant, alors qu'elle fait face à l'adjudant-chef Séverine Bogossian, tout a changé, parce qu'Alban se trouve encore en salle d'opération, les entrailles déchirées. Parce que s'il meurt, elle n'aura pas à le quitter, et que s'il survit, elle ne le pourra pas. Elle devra rester près de lui. Pour Dieu sait combien de temps, au bout de combien de temps, devient-il décent de quitter le survivant d'une tentative de meurtre pour l'abandonner à ses traumatismes et à ses séquelles? Et elle ne trouve aucune réponse acceptable à cette question. Si bien que la perspective de la survie d'Alban lui devient presque aussi intolérable que celle de sa mort, et qu'elle se fait horreur. Vous croyez qu'il va s'en sortir? Alban va s'en sortir. Je ne sais pas. C'est impossible de savoir. Je suis désolé. Il faut attendre. Quand il rentre à la villa vers 2 heures du matin, Alexandre Romani les attend près de l'entrée assis sur sa moto. Il semble particulièrement fébrile. Il se dirige tout de suite vers Alban. Il lui demande des comptes. Il bégaye.